Le docteur me dévisageait médusé, à l'intérieur de la maison de poupée. Alors je lui racontais tout. Comment j'attendais de voir le faisceau de lumière du chandelier passer près de la porte de ma chambre quand ma mère allait se coucher. Comment je me glissais sans bruit hors de mon lit et rampais jusqu'à la maison de poupée. Étant donné que je dormais à longueur de journée, je n'avais pas du tout sommeil le soir. Et si la lune brillait dans le ciel, je pouvais passer toute la nuit à inventer des drames dans mon monde miniature, à imaginer toutes sortes de contes, des aventures glorieuses aussi bien que de petites scènes de la vie domestique. Tout était miniature, sauf la passion de mes personnages. Je lui parlais de toutes ces poupées, des pinces à linge en bois, rondes à une extrémité et fendues au milieu, et dont la tête était peinte. Je lui parlais de Mrs. Golightly, parée d'une magnifique robe d'un blanc immaculé, de Rubiana, la délicate poupée aux yeux bleus et à la chevelure luxuriante, qui affichait une petite moue sous les deux ronds rouges de ses joues. Je vous les montrerai quand je retournerai chez moi. Emporté par ces souvenirs, je décrivis encore Topper le chien, trop grand et trop pâteau pour entrer facilement dans la maison de poupée. Il était un peu pelé par endroits, mais toujours prêt à japper pour prévenir lorsque mes histoires l'exigeaient. Et Hal, le prince qui ne fut prince que jusqu'au jour où, lassé de mes histoires de roi qui n'en finissaient pas, je brisais sa couronne. Le docteur sourit. « Ah ah, si jeune et déjà républicain !» Je ne compris pas bien sa remarque, que je pris pour une légère moquerie. Je ne voulais pas que ma mère sache que je m'étais levée, poursuivis-je. Aussi, le lendemain, j'attendis que le commis du boucher frappe à la porte. Alors qu'elle allait descendre pour lui ouvrir, je lui demandai de me passer Hal. Dans sa hâte, elle ne remarquerait rien. Quand elle revint, je fondis en larmes, disant que je l'avais fait tomber du lit et que sa couronne s'était cassée. Le souvenir de ma mère assise à mon chevet, toujours calme et silencieuse, me revint avec force. J'eus soudain terriblement envie d'être de nouveau là-bas, dans ma vie d'avant, en sécurité dans mon lit. Les larmes me montèrent aux yeux, et mon estomac se crispa si fort que j'en eus presque le souffle coupé. Était-ce possible que j'aie la nostalgie de chez moi, ce sentiment que je ne connaissais jusqu'alors que par mes lectures? Il me semblerait injuste d'avouer à cet homme si bon et si généreux que je désirais ardemment retrouver ma mère et ma sinistre maison. Mais je parvins à me lâcher. Elle était tellement gentille avec moi. Cet après-midi-là, elle a mis de côté son propre ouvrage et elle a fabriqué au crochet un petit béret rouge pour dissimuler la cicatrice sur le crâne de Hal. Il s'adossa pour me laisser le temps de sécher mes larmes avant de reprendre son interrogatoire. Alors comme ça, quand il y avait des histoires dont un jeune homme aurait pu être le héros, c'était la poupée Hal qui tenait ce rôle? Je rougis. Parfois, oui. Et secoua la tête, ébahie. Tu as donc appris à vivre en société uniquement par la force de ton imagination et grâce à une super maison de poupée que ta mère t'avait achetée. Je savais bien que les garçons ne sont pas censés jouer à la poupée. Elle ne l'avait pas achetée pour moi, m'empressai-je de préciser. Cette maison de poupée était la sienne quand elle était petite. Elle s'appelle Highgate. C'est la réplique exacte de la maison où ma mère est née. Et elle se trouvait dans la pièce dans laquelle fut installé mon lit. Pour ainsi dire une remise, tant par la taille que par sa fonction, commenta sèchement le docteur Marlowe. Voulait-il dire que ma mère m'avait enfermé moi aussi dans ce réduit, comme un objet encombrant dont elle avait hérité par hasard? Je pris sa défense. Elle avait une bonne raison de mettre mon lit dans cette pièce. Quand j'étais bébé, mon berceau était installé dans le grand salon qui donne sur la rue. Alors un jour, je lui ai demandé si je ne pourrais pas y retourner pour avoir plus de choses à voir, mais elle m'a répondu qu'à cause de ses baies vitrées, le salon était plein de courants d'air, et que c'était trop risqué pour moi. Nouvelle expression moqueuse sur le visage du docteur. À cause des courants d'air peut-être, mais surtout à cause de la curiosité des passants, non? Je n'y avais jamais pensé, mais il avait évidemment raison. C'était bien pour cela que dès que j'avais été assez grand pour regarder par la fenêtre, ma mère m'avait remis dans cette minuscule pièce sans soleil. Et c'était pour la même raison qu'elle avait refusé de me réinstaller dans le salon. C'est curieux qu'un détail aussi infime puisse vous faire entrevoir la vérité. Subitement, l'idée que ma mère pût être folle ne me semblait plus aussi grotesque. J'en avais le vertige, comme si mon petit monde était déjà bien ébranlé, subissait une nouvelle secousse. J'avais envie de vomir. Cependant, le docteur Marlowe me dévisageait d'un air grave, et nous étions seuls. Alors maintenant que cette idée avait franchi toutes les barrières que j'avais pu dresser pour l'empêcher d'atteindre mon cerveau, il fallait que je pose la question. « S'il vous plaît, docteur Marlowe, est-ce vrai ce que l'on dit en ville à propos de ma mère ?» Il rougit, visiblement courroucé. Les gens feraient mieux de garder leur opinion pour eux. Il fit un effort pour se reprendre. Mais s'il y a des bruits qui courent, Il vaudrait mieux que tu me dises de quoi il s'agit. Je baissai la tête. On dit que ma mère est... J'avais tellement peur à présent que ce fût vrai que je n'arrivais pas à le formuler. Il m'encouragea et je parvins tout juste à murmurer qu'elle est à moitié folle. Le silence qui suivit me parut durer une éternité. Tout ce que le docteur trouva à répondre ensuite fut « Il est vrai que ta mère n'est pas bien du tout. » Des larmes commencèrent à ruisseler sur mes joues. Je me sentais tellement coupable. Comment avais-je pu passer toutes ces heures depuis que nous étions séparés, à rire, à apprendre de nouveaux jeux de cartes, à pourchasser Sophie dans les escaliers? J'aurais dû être auprès de ma mère du matin au soir, et la nuit même au besoin. Comment avais-je pu être assez naïf pour penser qu'elle se remettrait du choc de mon départ, aussi vite que je m'étais habitué à ma nouvelle situation? Que m'étais-je donc imaginé? Qu'elle allait vaguement déplorer que son projet fou de m'élever comme un infirme échoue à cause d'un stratagème de ses voisins, et qu'aussitôt après elle sécherait ses larmes et admettrait qu'il était plus raisonnable de me laisser m'ouvrir au monde? Avais-je donc cru que notre problème serait balayé par cette courte séparation? Quel imbécile! Sous l'effet de la colère, ou de ce que j'imaginais être, puisque je ne connaissais pas encore ce sentiment, je devins cramoisi et lançai au docteur Marlowe « Qu'avez-vous fait? Ma mère doit être au désespoir de ne plus me voir. Pourquoi m'avez-vous laissé l'abandonner ?» Il voulut me calmer en posant la main sur mon bras. « Il ne faut pas raisonner ainsi, Daniel. » Je me reculai pour esquiver son geste. « Emmenez-moi à l'hôpital, il faut que je la voie. » « Pas maintenant, elle n'est pas prête. » Mais moi, je brûlais d'impatience. « Si, je suis certain qu'elle l'est. Elle ne peut quand même pas être folle au point de ne pas se réjouir d'embrasser son fils. » Le docteur fut catégorique. « Daniel, son cerveau est vraiment dérangé. On ne peut dire de quel côté il va basculer. Crois-moi, c'est mieux ainsi. Si tu aimes ta mère, comme j'en suis convaincue, tu dois me faire confiance et prendre ton mal en patience. » Il était médecin, et sa famille et lui avaient été adorables avec moi. Je fis un effort pour retrouver mon calme. « Vous me promettez qu'elle ira mieux ?» Il prit son temps pour répondre. Et même alors, voilà tout ce qu'il put dire. « Tu es un garçon intelligent, assez intelligent pour comprendre que je ne peux pas te faire une telle promesse. » En revanche, dès que j'aurai la certitude que le fait de te voir ne risque pas de la perturber davantage, tu pourras lui rendre visite, je t'emmènerai. Je savais que je n'obtiendrais rien de plus. Je devais me faire à cette idée. Peut-être étais-je un fils ingrat et réfléchi, mais j'étais jeune encore. Je me laissais bien vite distraire par le confort et la joie de la famille du docteur, par la gentillesse et la sollicitude de sa maisonnée. Je dois me pardonner cette insouciance comme je dois pardonner aux gens de la ville qui, me voyant escalader les clôtures avec Sophie ou porter les paquets de Mrs. Marlowe lorsque nous faisions les courses, me prirent pour un garçon insouciant et heureux.